Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Coucou. 1929, toute la population de Düsseldorf en Allemagne ne parle que d'une chose. Un homme, se prenant pour un vampire, erre dans les rues la nuit. Il entre dans les maisons mal fermées, poignarde ses habitants, met leur sang dans ses mains et s'en nourrit pour survivre. De nombreuses jeunes femmes rapportent avoir été attaquées en traversant une rue tard le soir ou un parc à l'abri des regards. Étranglées, elles ont perdu connaissance avant de se réveiller miraculeusement en vie quelques minutes plus tard. D'autres n'ont pas eu cette chance et leur corps a été souillé par le vampire. Cet homme, vous ne le connaissez probablement pas, son nom a été balayé par la grande histoire de la Seconde Guerre mondiale qui a suivi. Et pourtant, à son époque, il a fait régner la terreur, auteur officiellement de 9 meurtres dont l'un. Dès son plus jeune âge, Peter Curtin a plongé la petite ville de Düsseldorf dans une terreur comparable à celle provoquée par Jack l'Éventreur, un siècle avant lui. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tous my skies, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante spéciale tueur en série allemand, dans laquelle on va parler de Peter Curtin, un homme assez dérangé qui, normalement, si le système fonctionnait mieux, aurait dû être soigné ou en tout cas enfermé dès l'enfance quand il a commencé à noyer ses petits camarades de classe ou à avoir des relations avec des animaux. On sait énormément de choses sur Peter Curtin puisque, comme la plupart des tueurs en série, il a pris plaisir par la suite à raconter en détail tous ses meurtres et Peter, dans son cas, il a parlé à un psychiatre qui se nomme Carl Berg et qui a d'ailleurs écrit un livre sur ses entretiens avec Peter qu'il a nommé Der Sadiste. Le sadique, en gros, que j'ai utilisé en version numérique pour écrire cet HVF, donc on a énormément d'informations. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Le début du cauchemar. Notre histoire prend place aujourd'hui en Allemagne, nos ennemis de toujours qui ne manquent jamais une bonne occasion de nous envahir pour venir nous voler l'Alsace et la Lorraine. Restez sur vos gardes si vous habitez à l'est. Bref, on est plus précisément à Düsseldorf, ville située à l'ouest du pays qui en 1929 est en pleine révolution industrielle. La ville se développe bien, il y a du boulot, les usines tournent. Pourtant, un climat étrange s'est installé à Düsseldorf. Depuis quelque temps, des femmes disent être suivies tard le soir ou très tôt le matin par un homme très bien habillé qui essaie de les draguer un peu maladroitement et leur propose assez vite d'avoir des rapports. Plusieurs femmes ont été frappées ou étranglées, mais par miracle, aucun meurtre n'est pour le moment à déplorer. Chose banale pour une femme à notre époque qui a le malheur de se balader seule la nuit, mais en 1929, ce genre de choses, ça choque encore. Nous, à notre époque, ça fait 3 lignes dans le journal, et puis c'est tout. Il y a bien quelques SDF qui se sont pris des coups de ciseaux tard le soir, mais à l'époque, ils n'intéressent personne. Ça par contre, ça a pas changé en 2024, pensez à la femme morte de froid dernièrement. Et pourtant, ces victimes qui n'intéressent personne dans un premier temps sont bel et bien les premières d'un tueur en série nommé Peter Curtin. Enfin, première, pas vraiment, vous verrez quand on parlera de son enfance. Le type dont on va parler aujourd'hui avait la sale habitude de jeter ses petits camarades à l'eau pour les noyer. Chacun ses jeux d'enfance, moi j'aimais jouer au foot et faire du vélo. Notre affaire débute véritablement le 9 février 1929. Le temps est glacial en cette période en Allemagne, mais les ouvriers du bâtiment sont bien obligés de travailler. L'un d'eux, en prenant son service en ce triste matin, remarque rapidement quelque chose d'étrange au milieu des machines, des outils et des mottes de terre gelées. Une masse informe, désarticulée qu'il ne reconnaît pas, avant de s'apercevoir que non, ce n'est pas un animal qui est venu mourir ici, mais une petite, la petite que tout le monde cherche depuis 3 jours, Rosa Oliger, 9 ans. Son corps est retrouvé lardé de coups de ciseaux, le tueur a essayé d'y mettre le feu sans réussir. Comme bien souvent au début de ce genre d'affaires, personne n'a rien vu. Les parents de Rosa expliqueront que la petite avait l'habitude de rentrer seule chez elle après l'école, mais que, ne la voyant pas revenir, ils ont pensé qu'elle passait la soirée chez une copine. Ils la chercheront les 3 jours suivants, avant que son corps ne soit découvert par l'ouvrier. Peter racontera plus tard.
Ce 8 février, j'ai quitté ma maison vers 6 heures du soir pour me diriger vers l'église. J'ai rencontré cette petite de 8-10 ans, et je lui ai demandé où elle allait. À la maison, elle m'a dit. J'ai décidé de la raccompagner et je l'ai emmenée dans un terrain vague avant de la saisir à la gorge et d'attraper mes ciseaux. En moins d'une minute, elle semblait morte. Je suis rentré chez moi pour examiner mes vêtements à la recherche de traces de sang. J'ai aussi nettoyé les ciseaux. Il n'y avait aucune tache sur mes habits. Puis, je suis allé au cinéma. Le lendemain, vers 6 heures, je me suis levé en indiquant à ma femme que j'allais aux toilettes. Dehors. J'ai couru à toute vitesse jusqu'au lieu du crime pour verser du pétrole sur le corps et y mettre le feu. L'aller-retour ne m'a pas pris plus de 5-6 minutes. J'éprouvais aucune excitation sexuelle. Je voulais seulement engendrer de l'agitation et de l'indignation en mettant le feu au corps.
Peter part trop vite et le feu ne prend pas, ce qui permettra l'identification plus tard de Rosa. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est la première fois dans toute l'histoire des HVF qu'un tueur, pour se donner un alibi auprès de sa femme, dit qu'il va détruire les toilettes de bon matin pour qu'elle le laisse tranquille. 5 jours seulement après le meurtre de Rosa, c'est un homme de 45 ans, Monsieur Schier, qui est retrouvé mort en ville. 20 coups de ciseaux. Comme il l'a fait avec Rosa, Peter revient sur la scène de crime le lendemain, mais cette fois la zone est déjà bouclée. Alors, il discute tranquillement avec un policier pour faire semblant d'en apprendre plus sur l'enquête. Ça le rassure, les flics lui déballent tout. Ils n'ont rien, aucun suspect n'a été aperçu, le dossier risque d'être rapidement classé. De toute façon, hier soir, personne n'a rien vu, les rues étaient désertes vu les températures. Peter est parti en chasse vers 20h, sa femme devait rentrer à la maison vers 1h du matin après son service au restaurant. Ce soir-là, il n'a croisé que Schier, à qui il a donc mis des coups de ciseaux avant de rentrer tranquillement chez lui. Peter prend confiance en lui, et comme beaucoup de tueurs en série, plus il avance dans ses crimes, plus il va aller loin. Le 2 avril, Erna Penning, une adolescente de 16 ans, est poursuivie par un inconnu qui essaie de l'attraper avec une corde. À bout de souffle, elle est finalement rattrapée, jetée à terre par réflexe. Elle hurle le plus fort possible. Et ça marche. Erna réussit à faire fuir l'agresseur. Peter rentre chez lui plus frustré que jamais. La nuit suivante, il repart en chasse et suit Madame Flack qui, elle aussi, se met à hurler en voyant Peter se jeter sur elle. Il essaie de la frapper, l'étrangle et la frappe à tel point que la jeune femme sera incapable d'avaler des aliments solides pendant plusieurs jours, tellement sa gorge est abîmée. Mais par chance, ses hurlements ont été bien assez forts pour avertir les quelques agents qui patrouillent en ville. Peter les entend arriver avec leur sifflet et décide de s'enfuir. Cette nuit-là, un jeune homme du nom de Johann Strausberg sera arrêté. Johann, l'histoire a retenu 2 choses le concernant. Il est décrit comme un retardé mental et a pour habitude de s'enfuir en courant dès que quelqu'un s'approche de lui. Manque de peau, il était dans le coin au moment de l'attaque, il est donc arrêté, va avouer les meurtres et dire que oui, c'est lui le monstre de Düsseldorf et va être jeté en asile psychiatrique. Voilà pour les enquêteurs, le job est fait, le taré qui attaquait les femmes et leur mettait des coups de ciseaux en pleine nuit est à l'asile, enquête résolue. Non. Le 21 août, Peter passe la nuit à errer et il est pris d'une crise. Il croise 3 personnes cette nuit-là. Les 3 se prendront des coups de ciseaux. Il se jette sur elles dès que leurs regards se croisent. L'une d'elles, Anna Godhausen, aura le foie et l'estomac perforés. Elle mettra des mois à se remettre de cette attaque éclair. D'autres femmes attaquées avant ou après ce 21 août viendront à leur tour témoigner, disant que l'agresseur, voyant qu'elles allaient survivre, a demandé à boire leur sang, à prendre le liquide dans ses mains pour en boire des gorgées. Le mythe du vampire de Düsseldorf est en train de s'écrire. Mais les enquêteurs essaient de garder l'affaire sous contrôle. C'est un incident isolé, circulé, y a rien à voir. Alors, Peter, voyant que personne ne parle de ses crimes, va décider de choquer. Le 24 août, il part de chez lui à 20h, armé d'une petite dague. Il sait qu'un festival se déroule pas loin de chez lui. Un peu de musique, des bonbons, de la bière, des barbes à papa, il y aura forcément des jeunes femmes, voire des adolescentes. Alors Peter s'y rend et observe. Il a repéré les rues avoisinantes par lesquelles les fêtardes seront obligées de repartir après le festival, et ça tombe bien, il en voit deux, très jeunes, qui sont en train de partir en prenant un chemin à travers champs. Il les suit puis les aborde. Ce soir-là, Louisa, 14 ans, est accompagnée de sa sœur Gertrude, 5 ans. Ils ont eu le droit de sortir ensemble, mais ne doivent pas rentrer tard. Louisa a ordre de veiller sur sa toute petite sœur. Peter les aborde avec un deal. Il propose à Louisa d'aller lui acheter des cigarettes au kiosque un peu plus loin avec son argent et de garder la monnaie. Comme toujours lorsqu'il sort, Peter est super bien habillé. Louisa ne se méfie pas et accepte. Elle laisse sa petite sœur avec Peter qui, une fois seule avec Gertrude, l'emmène dans les bois et la saisit à la gorge. Peter frappe alors la petite chirurgicalement. Il ressort ensuite des buissons et attend le retour de Louisa qui arrive sourire aux lèvres avec le paquet de cigarettes. Elle n'a même pas le temps de remarquer l'absence de sa sœur qu'à son tour. Elle est attrapée, la gorge serrée jusqu'à la perte de connaissance et frappée au cou au point que sa tête se sépare de son tronc. Les meurtres de Louisa et Gertrude vont plonger Düsseldorf dans l'horreur. Tout le monde a entendu parler des attaques la nuit, des meurtres ici et là. Mais cette fois, la population en est sûre. Un homme erre dans les alentours pour tuer. Personne ne sait encore qui il est. Personne ne sait que Peter, après chaque attaque, se nourrit du sang de ses victimes qu'il met dans une fiole ou garde dans ses mains avant d'être dans un endroit calme pour y goûter. Prenant confiance en lui, il va aussi écrire des lettres pour narguer les enquêteurs et repartir en chasse. Mais alors, comment un homme peut-il en arriver à commettre de telles atrocités? Est-ce qu'on retrouve dans l'enfance de Peter Curtin des signes de déviance? Oui, forcément, je sais même pas pourquoi je fais semblant de poser la question. L'enfance d'un monstre. Peter Curtin, né le 26 mai 1883 à Köln, Mülheim. Il passe son enfance dans un appartement, ou plutôt un studio misérable, complètement délabré. Il partage la pièce avec ses parents et ses 10 autres frères et sœurs. L'enfance de Peter est un calvaire. Son père est alcoolique, il fracasse tout le monde quand il est bourré, à tel point que pendant ces crises, les enfants Curtin fuient la maison. Peter dira plus tard qu'il se réfugiait dans les bois pendant des heures en attendant que son père dessoule. Le mariage des Curtin n'a donc rien d'une union heureuse. La mère de Peter était devenue au fil des années une sorte d'ombre sans âme, alors qu'elle venait à la base d'une famille plutôt bourgeoise mais avait plongé avec son mari qui abusait d'elle au gré de ses envies. Et lorsqu'elle réussissait à trouver la force de refuser, le père de Peter s'en prenait alors à l'une de ses filles. Il fera 3 ans de prison pour inceste. La mère de Peter profitera de cette condamnation pour fuir et demander le divorce. À ce moment-là, Peter est déjà bien avancé dans l'adolescence puisqu'il est l'aîné de la famille, donc sa situation ne change pas vraiment. Alors, comme tout gamin dont les parents ont abandonné l'éducation, Peter va se mettre à traîner les rues. Bon, il essaie quand même de s'en sortir, trouve un job de mouleur, et à ce moment-là, en voyant ce gamin de 14-15 ans arriver, personne ne se doute une seule seconde qu'il a déjà commis ses premiers meurtres. Peter racontera plus tard.
J'ai commis mes 2 premiers crimes déguisés en accident. À cette époque, je jouais avec d'autres garçons sur les berges du Rhin à Mülheim. On adorait se balader le long du Rhin. Un jour, j'ai poussé sous l'eau la tête d'un garçon qui avait perdu l'équilibre. Il est mort noyé. Une autre fois, c'est moi-même qui ai jeté un autre camarade de jeu dans le Rhin. Il a été emporté par le courant. Je savais très bien que ce que je faisais était mal, mais ces actes m'ont fait éprouver d'agréables sensations.
À l'époque, les noyades sont fréquentes sur les berges du Rhin. Beaucoup de gamins y viennent pour s'amuser et se rafraîchir. On se fait rapidement des amis qui ne connaissent pas forcément notre nom. Peter est déjà un fantôme à cette époque. Il vous aborde, vous emmène jouer plus loin et vous pousse à l'eau. Plus tard, il fera la même chose avec ses victimes féminines. Pour survivre, Peter vole pendant son adolescence. Son apprentissage de mouleur ne lui permet pas de vivre. Il est miséreux, ses vêtements ne lui tiennent pas chaud. Et quand vient la faim, il erre sur le marché pour voler quelques produits et se fait prendre de temps en temps, ce qui lui vaut dès son plus jeune âge des séjours en centre pour jeunes garçons. Pour s'évader psychologiquement de sa cellule pendant ces quelques mois de détention qu'il fait ici et là, Peter fantasme, il s'imagine en train de tuer. Il se fait des scénarios pendant lesquels il balance des dizaines de personnes à l'eau, les regardant périr. Ou bien, Peter dit aussi qu'il rêve d'empoisonner des réservoirs d'eau potable pour faire un massacre, de livrer du chocolat empoisonné à la mort aux rats dans les écoles du coin. Bon, déjà là, on a clairement un problème de santé mentale, mais impossible à détecter, puisque Peter garde ses fantasmes pour lui. Mais il avance dans l'âge et les hormones commencent à se développer. Peter s'intéresse aux femmes.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Problème, ben Peter, il est à moitié SDF, a pas grand chose pour lui et n'arrive pas à draguer des filles de son âge. Un jour, il fait la rencontre d'un ramasseur de chiens alors qu'il traîne les rues. Un ramasseur de chiens, c'est un type qui a pour but d'attraper les chiens errants et de les amener dans des chenilles pour les éduquer, les vendre ou en faire des chiens de chasse. Sauf que ce type que Peter rencontre, eh ben les chiens qu'il attrape dans les rues, il les emmène pas tous dans un chenil, certains terminent dans sa cabane dans les bois. Et dans cette cabane, cet homme, il torture les chiens et abuse parfois d'eux. Et oui, vous avez bien compris, on parle de chiens. Plusieurs fois, Peter assiste à ce genre de scène indescriptible et une petite idée lui traverse la tête. Si les filles de son âge ne veulent pas de lui, eh ben il va pouvoir se faire plaisir avec la chèvre du coin. Alors, je m'attarde pas sur cette partie de la vie de Peter Curtain, en tout cas, sachez que ses premières expériences ont donc été avec des animaux. Bon, il a trouvé un moyen d'assouvir ses pulsions dans le caleçon avec la chèvre du coin, mais ses envies meurtrières sont toujours là. Peter n'est pas encore à l'âge adulte, il a pas la force d'un homme, alors s'il ne peut pas tuer de ses propres mains, il tuera par les flammes. La nuit, il se balade dans les petits villages allemands qu'il traverse à pied, repère des granges, des maisons, et y balance des vêtements imbibés d'essence pour démarrer un incendie. Une fois que le feu se propage, Peter se cache à proximité et nourrit ses fantasmes du hurlement de ses victimes qui tentent de fuir l'incendie et de contenir le feu pour sauver leur maison. D'après ce que j'ai pu trouver sur cette période, aucune victime n'est à déplorer des incendies de Peter, mais comme toujours, des années après les faits, difficile de lui attribuer tel ou tel incendie mortel. Vers l'âge de 16 ans, Peter va faire la rencontre d'une prostituée qui a un petit appartement et qui va être prise de pitié pour lui. Le voyant dans ses vêtements miteux, elle va l'inviter à vivre chez elle. Et au fil des soirées alcoolisées, les deux vont commencer plus ou moins à se plaire. Cette prostituée dont Peter ne mentionne pas le nom dans ses écrits, elle va l'éduquer à sa manière en lui faisant découvrir le monde sadomaso. Peter apprend à fouetter, à frapper, mais surtout à étrangler pour faire perdre connaissance. Ces différentes techniques, il les utilisera plus tard sur ses victimes. Et son premier meurtre, en tout cas le tout premier qui ne va pas être classé comme accident vu l'horreur des faits, va intervenir un peu par hasard dans la carrière de Peter Curtain. En 1913, il est à Cologne. Comme à son habitude, il traîne les rues et vole pour survivre. Un dimanche soir, alors que les quartiers sont calmes, il repère une auberge au-dessus de laquelle vit le propriétaire des lieux, un type qui a forcément des économies ici et là. Peter décide d'aller visiter le logement. Il entre rapidement par une fenêtre, c'est la fin du mois de mai, la journée il fait bon et pour rafraîchir les logements, beaucoup laissent leurs fenêtres ouvertes la nuit. Peter entre et se retrouve dans la chambre d'une petite, une certaine Christine Klein, 10 ans, qu'il n'a jamais vue et qu'il ne connaît pas. Et là, il est pris d'une pulsion, il est ici, seul en pleine nuit dans une chambre sans que personne ne l'ait vu entrer. Il a envie d'essayer, est-ce qu'il est capable d'étrangler comme lui a appris son ami pendant ses sessions de bondage ? Peter s'approche de Christine et serre ses grosses mains autour de son cou. La petite se débat quelques secondes puis perd connaissance. Il aurait pu en rester là et partir, mais il racontera plus tard.
J'avais avec moi un petit couteau de poche bien aiguisé que j'ai placé sur son cou. Pendant 3 minutes, le sang a giclé. Ensuite, je suis rentré chez moi à Düsseldorf.
Le lendemain matin, c'est Monsieur Klein qui découvre sa fille sans vie dans son lit. Tout de suite, les soupçons se portent sur son frère Otto, qui lui avait demandé un peu d'argent hier, mais Monsieur Klein avait refusé. Otto avait alors menacé son frère de faire quelque chose dont, je cite, « il se souviendrait toute sa vie ». Et l'histoire va aller très loin, puisque dans la chambre de Christine, on retrouve un mouchoir imbibé de sang avec comme initiale PK. Pour Peter Curten. Problème, eh ben Monsieur Klein, le propriétaire, il s'appelle aussi Peter et ses initiales sont donc PK également. Et il avait prêté à son frère un mouchoir avec ses initiales. La coïncidence va mener Otto jusqu'au procès pendant lequel il va être accusé du meurtre de la fille de son frère. Bon, par chance, heureusement pour lui, il sera acquitté, manque de preuves, mais il va vivre pendant 17 ans avec, au-dessus de lui, le soupçon d'être l'assassin de la fille de son frère avant que Peter n'avoue. D'ailleurs, pour l'anecdote, on sait que le lendemain du meurtre de Christine, au moment de sa découverte, Peter Curten a pris un café en face de l'auberge qui était devenue une scène de crime, pour se nourrir de la peur et du choc de la population. Après l'enterrement de Christine, il va se rendre sur sa tombe pour se rendre compte de la réalité. Oui, il a tué, oui, il a pris une vie, et cette tombe est là, au milieu de ce cimetière, par sa faute. Et qu'est-ce qu'il aime ça ? Il se sent puissant, à l'impression d'avoir un droit de vie ou de mort. Ce premier shot d'adrénaline, ce goût du sang, Peter va le canaliser plusieurs années. Il refait un séjour en prison, trouve ensuite un job dans une usine, puis retourne à Düsseldorf en 1925. Ses pulsions reprennent, cette fois il est dans la force de l'âge, a confiance en lui pendant un an. Il s'apprête à faire régner la terreur sur la ville. Terreur en ville. Retour après les meurtres de Gertrude et Louisa, les femmes de Düsseldorf, vivent dans la peur. Les rumeurs les plus folles se propagent en ville. À l'époque, les on-dit se partagent dans les bars tard le soir ou dans les transports tôt le matin. Des femmes disent avoir été poursuivies par le fou n'importe quand, à n'importe quelle heure. L'une d'elles, dès le lendemain des meurtres de Gertrude et Louisa, est attaquée le long des berges alors qu'elle se rend à une fête foraine. Gertrude Schulte a 27 ans au moment des faits. Elle est abordée par Peter, qu'elle ne soupçonne pas une seule seconde d'être le tueur. La force de Peter, c'est qu'il connaît parfaitement son époque, donc pour passer sous les radars, il s'habille parfaitement bien. Un tueur sanguinaire comme on le décrit dans la presse doit forcément être un SDF paumé qui se cache la journée sous les ponts, pas un type bien habillé qui chasse en pleine journée. Gertrude ne se méfie pas et accepte que Peter l'accompagne à la fête. Sauf qu'une fois en forêt, près du lieu de rassemblement, la situation dégénère. Gertrude Schulte survivra et passera les 6 prochains mois à l'hôpital. Des suspects lui seront présentés, mais elle n'en identifiera aucun comme étant son agresseur. Peter est à ce moment-là complètement sous les radars et il est en train d'atteindre le plus grand état d'excitation qu'il n'ait jamais ressenti. Il a envie de tuer, de boire du sang, d'étrangler. Personne ne le soupçonne de rien. Sa femme avec qui il est marié depuis plusieurs années ne s'intéresse pas à ses allées et venues tard le soir ou tôt le matin. Il fait ce qu'il veut. Alors, les attaques se rapprochent. Début septembre, Ida Reuter, une domestique, ne rentre pas de sa promenade du dimanche après-midi. On découvre son corps le lendemain dans un pré en bordure du Rhin. Sa tête porte la trace de 13 coups de marteau. Peter s'essaie à d'autres armes. Le 26 septembre, Peter tente d'étrangler 2 jeunes femmes de 28 ans, Lina R et Maria Rad qui survivront. Le 12 octobre, Elisabeth Dorier, une servante, est battue à mort. Le 25 du même mois, Madame Murer est abordée par un homme toujours à Düsseldorf qui lui demande s'il peut la raccompagner chez elle. Madame Murer accepte. Comme toujours, Peter est bien habillé et il ne ressemble pas du tout à l'idée que l'on se fait d'un tueur en série à l'époque. Quelques heures plus tard, elle se réveillera à l'hôpital après avoir été frappée à la tête à coups de marteau. Les meurtres choquent, mais Peter n'est pas vraiment satisfait de l'ampleur que prend son affaire. La terreur n'est pas encore vraiment installée à Düsseldorf. Pour lui, ces meurtres sont encore bien trop faciles. Le 7 novembre, il croise la route de Gertrude Albermann, 5 ans, qui rentre chez elle. Personne n'est dans le coin. Peter attaque, étrangle et poignarde. Il cache le corps sous un amas de briques et de gravats près de poubelles et rentre en vitesse chez lui pour écrire une lettre sur laquelle il écrit « Meurtre » et « dessine un plan ». Les meurtres de petits, c'est ce qui choque le plus la population et Peter l'a bien compris. L'indignation et la peur sont à leur maximum pour cette fin d'année 1929. Alors, Peter profite des fêtes et n'attaque plus. Il repart en chasse en février 1930 et ouvre une nouvelle vague de terreur. Heureusement, aucune de ces attaques n'est mortelle. Les femmes sont beaucoup plus sur leur garde qu'il y a quelques mois et elles se débattent plus violemment et hurlent rapidement pour sauver leur vie. Peter change alors son mode opératoire. Il n'attaque plus dans la rue ou près des berges, mais va chercher à faire ami-ami avec sa victime. Pour ça, il se rend à la gare et cherche à aborder des jeunes femmes un peu paumées qui cherchent un logement ou du travail. Il se présente comme un homme riche et leur propose de loger dans sa villa en échange de ménage. Beaucoup acceptent de le suivre comme Irma Baker, 23 ans, qui suit Peter en forêt pour soi-disant trouver sa villa au milieu des arbres. Une fois de plus, au retour de la terreur, des femmes se manifestent disant qu'elles ont croisé le tueur et qu'il a voulu boire leur sang. Et à l'époque, il est très facile d'aborder et de rencontrer des femmes qui débarquent à la gare de Düsseldorf parce que l'information se transmet mal et même si certaines sont au courant des meurtres qui ont lieu ici et là, elles se rendent pas compte du réel danger qui erre dans la ville. Ou plutôt qui règne. C'est plus français. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, lorsque Maria Budlik, domestique au chômage, se rend à Düsseldorf le 14 mai 1930, et qu'elle est abordée par un homme qui lui propose de l'accompagner jusqu'à un foyer pour filles dans lequel elle pourra s'installer le temps de trouver un boulot et de prendre ensuite un petit appartement, Maria ne se méfie pas et décide de suivre l'inconnu qui, peu à peu, commence à l'emmener près d'un parc. Rapidement, le ton change, le type est insistant, essaie de lui passer la main dans le dos, Maria est mal à l'aise. Par chance, un autre monsieur arrive et voyant la situation, il demande à Maria si tout va bien et lui propose de la raccompagner. Ouf, Maria, elle est sauvée. Sauf que cet homme qui vient lui proposer son aide, c'est Peter. Maria accepte de le suivre, elle est rassurée, il est bien habillé, beau costume et la confiance. Peter l'emmène chez lui au 71, Mainmarestrasse, sa femme est absente. Maria entre dans l'appartement, accepte un verre de lait et un sandwich au jambon pour se remettre de ses émotions. Elle a eu peur dans le parc, elle a entendu qu'un tueur errait à Düsseldorf, on le surnomme même le vampire. Ça tombe, c'était ce type dans le parc qui a essayé de la draguer lourdement. Mais bon, là, elle est en sécurité avec Pete, comme elle l'appelle, il peut rien lui arriver. Peter et Maria ressortent de l'appartement, puis se dirigent vers le foyer. Sauf que pendant le trajet, Peter Curtin change complètement de comportement. Il est de nouveau sur son terrain de chasse, il fait nuit, il a de nouveau envie de tuer. On croirait un loup-garou un soir de pleine lune. Vous foutez Peter au beau milieu d'une rue, en pleine nuit, il a le goût du sang qui lui monte aux babines. Peter attrape Maria et lui propose un rapport, là, en pleine rue. La femme refuse ce débat et ça en reste là. Peter la laisse repartir. Et là, il se passe un truc incroyable. À ce moment-là, les enquêteurs n'ont toujours aucun suspect. On sait qu'un type erre dans les rues, qu'il aime boire du sang, qu'il étrangle, poignarde, frappe à coups de marteau, mais personne ne réussit à l'identifier. Eh bien, Maria, en rentrant chez elle après son aventure catastrophique à Düsseldorf, elle va écrire une lettre à l'un de ses amis qui habite justement en ville, en lui disant que jamais de la vie, elle retourne là-bas. Sauf que cette lettre, elle va mettre une mauvaise adresse dessus et elle va arriver dans un commissariat local. Alors, je sais que c'est tiré par les cheveux, mais c'est pourtant la vérité, et les flics du coin, en ouvrant la lettre de Maria et en lisant ce qui lui est arrivé, vont se dire que mais elle est clairement tombée sur le vampire de Düsseldorf et en plus, elle explique que le type l'a emmenée dans son appartement, donc il faut la retrouver. Retrouvée, Maria explique que oui, elle se souvient de où était l'appartement et elle accepte d'y conduire les enquêteurs le mercredi 21 mai. Arrivée à l'immeuble, problème, Maria ne se souvient plus exactement de quelle porte d'appartement il s'agit. Et pendant qu'elle réfléchit, il va se passer un autre truc dingue dans cette affaire. Peter va entrer dans son hall d'immeuble, il va regarder Maria, va y avoir un blanc, Maria va mettre du temps à le reconnaître, mais le temps que ça monte au cerveau, eh ben Peter, il a fait demi-tour et il s'est barré. Bon, heureusement, Maria, elle va dire que le type qui vient de s'enfuir, c'est Peter, c'est lui qui l'a emmené dans son appartement et qui a essayé d'abuser d'elle après. Les agents vont sortir du hall d'immeuble, mais Peter n'est déjà plus là.
J'ai été surpris de retrouver Maria dans mon immeuble. C'est là qu'elle me vit. Elle parut surprise. Je suis sûr qu'elle m'avait reconnu à cet instant. Le soir même, j'ai été chercher ma femme à son travail. Je lui ai expliqué l'affaire. Je lui ai dit que j'allais partir pour une quinzaine d'années de prison. Ma femme est rentrée choquée par mes déclarations et moi, j'ai erré toute la nuit. Le lendemain matin, je suis revenu prendre des affaires.
Lorsqu'il retourne chez lui après une nuit de cavale, Peter recroise les enquêteurs qui sont cette fois venus interroger sa femme. Il se cache et entre dans l'appartement à leur départ pour prendre des affaires en vitesse. Sa femme ne veut pas partir, elle lui ordonne de mettre fin à ses jours, mais Peter refuse et repart de nouveau. Madame Curtin lui donne alors rendez-vous le lendemain devant une église pour discuter de la situation. Dans le même temps, elle prévient les enquêteurs en disant qu'elle pense que son mari est le vampire de Düsseldorf. Le 24 mai, Peter vient au rendez-vous. D'un coup, des flics sortent des ruelles et pointent leurs flingues sur Peter, qui décide de se rendre sans faire de vagues. À ce moment-là, les enquêteurs allemands ne sont pas sûrs d'avoir affaire au vampire, au type qui terrorise Düsseldorf. Et pourtant, Peter décide de parler. Pendant des heures, il parle de chaque meurtre en détail. 79 au total. La justice ne pourra en prouver que 9 et l'accusera aussi de 7 tentatives de meurtre. Vu par des psychiatres, Peter sera décrit comme un homme intelligent qui avait la pleine capacité de ses moyens mentaux. Il n'est pas décrit comme fou et à l'époque, il choque la population par sa façon très calme de parler lors de son procès et par son style. Il est très propre sur lui, porte de très beaux costumes pour l'époque. Personne n'aurait imaginé une seule seconde que le monstre de Düsseldorf puisse être cet homme. L'histoire de Peter Curtin a par la suite fait l'objet de films comme M le maudit, de sadiste ou tout simplement le vampire de Düsseldorf pour faire simple. Condamné à mort, Peter Curtin dira avant d'être guillotiné le 2 juillet 1932
« Dites-moi, une fois la tête coupée, pourrais-je encore entendre au moins pour un instant le bruit de mon sang jaillissant ? Ce serait le plaisir qui mettrait fin à tous mes plaisirs. »
Si vous avez regardé cet HV jusqu'au bout, mettez vampire en commentaire. Et pour la petite parenthèse, on ne sait pas ce qu'est devenue la femme de Peter. Je suppose qu'elle a dû demander le divorce après la condamnation à mort. En tout cas, elle a vécu par la suite dans l'anonymat le plus total. Et comme je le disais au début de cet HVF, après la Seconde Guerre mondiale est arrivée, donc l'histoire de Peter Curtin, elle a complètement été oubliée jusqu'aujourd'hui où je vous l'ai racontée. J'espère que l'histoire vous aura plu comme d'habitude. N'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve sur X, anciennement Twitter et Instagram. Et puis vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.